m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
La chaleur assomme et les records tombent comme des mouches ou des grabataires pendant la canicule. Pour la première fois en France, les températures maximales ont dépassé les 45 degrés Celsius le 28 juin dernier. Rien de suffisamment affolant pour convaincre les climato-sceptiques, mais bien assez pour engrainer les adeptes de la théorie de l'effondrement, hein, qui redouble d'efforts pour apprendre à faire pousser des crucifères en sol argileux. Et foutre en PLS les écolos raisonnables, hein, tu sais, celles et ceux qui ont voté pour le champion de la Terre en 2017 et se sont rabattus sur Jadot aux européennes. Ceux pour qui l'urgence écologique est une priorité. Mais ne soyons pas radicales, s'il vous plaît, de toute façon, ils n'ont jamais vraiment aimé les mots en isme. Mais il n'y a pas que les températures qui grimpent en ce moment. D'après le site du groupe financier Bloomberg, qui est à l'anticapitalisme et l'antilibéralisme, ce que Éric Zemmour est au féminisme et à la dignité humaine, ces 6 derniers mois, la France s'est distinguée comme étant le pays où les milliardaires ont fait croître le plus rapidement leur fortune. Les 14 personnes les plus riches de France ont augmenté leur fortune collective de 35% en 6 mois, soit une augmentation de 78 milliards de dollars. Alors juste parce que quand on parle en fait de milliards et de millions, on se rend pas bien compte, un million de secondes c'est 11 jours et demi, un milliard de secondes c'est 32 ans, un million de dollars c'est environ 755 SMIC, un milliard de dollars c'est 750 857 SMIC. Avec les 70 milliards gagnés par 14 types pendant 6 mois, on aurait pu payer quasiment 10 millions de personnes au SMIC pendant 6 mois. On aurait donc réglé le problème du chômage. Ben oui, c'est simpliste, bien sûr que c'est caricatural. Mais bordel, 14 pélos qui, grâce à Macron, car ne nous mentons pas, ce sont bien les politiques de La République En Marche qui le permettent, 14 pélos qui gagnent de quoi payer 10 millions de SMIC en 6 mois, c'est pas un peu une caricature, déjà? Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'heure de l'apéro, la matinale qui ne dit pas son nom, auditrice, hein. Tu es en bonne compagnie pour une heure calme, une heure voluptueuse, une heure délicieuse, une heure qui va passer très vite car je vais recevoir dans quelques instants Marion Sieffert, autrice, metteuse en scène, performeuse, qui parlera avec nous de son travail, de son histoire, de ses envies. Nous discuterons donc d'art ce soir dans un entretien d'une heure pour prendre notre temps, juste ponctué de ce qu'il faut de musique, reportage et d'humour. Car si je voulais me la péter et essayer de choper dans un amphi de première année de philo, je dirais, citant Alain en écriture inclusive, que l'art est comme un miroir où l'homme ou la femme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même ou d'elle-même. Mais en vrai, c'est juste que c'est une artiste que j'ai découverte cette année, avec deux spectacles dont on parlera, et que je profite de manière éhontée de cette antenne pour en apprendre un peu plus sur elle et te la présenter. Bah oui, parce que c'est ça, en fait, l'apéro, c'est quoi? Si ce n'est des rencontres autour d'un verre, la détente en bandoulière et les tympans en éventail.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je vais m'attendre, petite sœur.
Et je crois qu'on a un petit son d'intro, normalement.
D'écrire une lettre à papa. Ah oui. On en a parlé pendant tout le temps.
Ah
tu restes sur le I love you.
Ah oui.
Et après, tu peux basculer sur le nom.
I'm preaching a lecture. To daddy. His earth that is heaven above. I'm writing a letter to daddy. Saying I love you. I love you. I love you. I love you.
Bonsoir Marion Sieffert.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Comment ça va?
Ça va bien.
Ça va. Alors on a des gobelets en plastique donc on peut pas vraiment trinquer mais le cœur y est. Je tiens à préciser qu'en plus on trinque à l'eau. Hein. Mais j'ai demandé ce que tu voulais et tu m'as dit de l'eau c'est bien. Tu bois que de l'eau ou c'est juste pour ce soir?
Non, je bois pas que de l'eau, je bois beaucoup d'eau.
Beaucoup. Mais surtout en ce moment, hydratez-vous. On ne le dit pas assez. Mais oui, d'autres choses quand même pour l'apéro.
Bien sûr. Un petit pastis, c'est toujours bien.
C'est toujours bien. Alors, avant d'aller plus loin, revenons quand même un tout petit peu sur ce son que nous venons d'écouter en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette séquence ?
Alors, c'est un moment de répétition du grand sommeil. Et alors, le grand sommeil, c'est la deuxième pièce que j'ai faite. Et je l'ai faite avec Elena De Laurence, qui est performeuse, comédienne, danseuse. Et en fait, dans cette pièce, Elena, elle joue une petite fille de 11 ans qui s'appelle Jeanne, et avec qui on a passé 6 mois de répétition, et puis finalement, elle a dû quitter le projet. Du coup, ça a complètement reconfiguré le projet, la pièce, et j'ai recréé la pièce autour de son absence. Et donc, pour garder mon duo, j'ai demandé à Elena de jouer Jeanne. Et donc, c'est une manière d'aborder l'enfance à travers le corps de l'adulte, et justement là, c'est un moment de répétition qui n'est pas du tout dans la pièce. Mais ce qui nous a aidé pour trouver le personnage qu'on appelle, on a trouvé un mot, c'est enfant grande. Donc c'est une enfant trop grande, c'est pour créer, voilà, pour décrire un peu ce que c'est que cet enfant qui n'en est pas vraiment une. Et ben on s'est intéressé à différentes personnes, et là c'est ce qu'elle chante, c'est un extrait de une chanson qui est dans le film Qui a tué Baby Jane, et c'est Bette Davis qui la chante. Et Bette Davis, dans cette chanson, elle a à peu près peut-être 40-50 ans quand elle joue ce rôle. Elle joue le rôle d'une enfant star, en fait, qui était très connue quand elle avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, et qui, en fait, a jamais réussi à quitter son personnage d'enfant star. Et donc, ça donne une sorte de personnalité un peu monstrueuse. Là, une enfant qui n'a pas voulu grandir, en fait, qui est restée bloquée à un stade un peu de célébrité qu'elle n'a plus jamais retrouvée. Et qui est du coup mauvaise, méchante. Et donc, c'est dans la répétition, on cherchait. Là, on était vraiment en train d'essayer de trouver la fin du spectacle. Et donc, on essayait plein de choses. Et à ce moment où cette chanson est apparue, et j'aime bien toujours introduire les spectacles par des choses qui sont pas dedans, et du coup.
Et ça marche bien, puisque dans la particularité du grand sommeil, c'est vraiment ce corps adulte, comme tu l'as dit juste avant, qui devient très rapidement aux yeux des spectateurs et spectatrices un corps d'enfant. C'est-à-dire que la façon dont elle se meut, dont elle joue avec ses membres, dont elle se déplace, les poses qu'elle prend, tout va vraiment vers cette espèce d'infantilisation de ses déplacements, de sa façon d'être sur scène. C'est quelque chose qu'elle avait déjà un peu, Elena, en tant que comédienne, ou c'est quelque chose qu'il a fallu vraiment travailler
Alors en fait, ça c'est marrant parce que ça c'est ce que les gens projettent sur elle pendant le spectacle. Les gens la voient comme une enfant et vont interpréter tout ce qu'elle fait comme si c'était quelque chose que les enfants font. Mais nous, ça n'a pas du tout été la manière avec laquelle on a travaillé. En fait, le texte, c'est vraiment une enfant qui parle, mais après tous ces gestes, on n'a pas du tout cherché à imiter soit Jeanne, soit les enfants qu'on connaît, soit les enfants qu'elle-même, enfin que nous on a été. En fait, on a travaillé à partir de quelque chose, enfin d'une recherche qu'Elena avait abordée de manière à la fois théorique et pratique autour d'une chorégraphe allemande des années 20 qui s'appelle Valeska Gert, et qui travaillait beaucoup autour de la grimace, du corps grotesque. Et moi aussi, j'ai écrit la pièce en pensant justement à ce qu'Elena aime faire, sur la manière dont elle aussi aime se mettre en scène, soit sur ses photos Facebook ou dans des performances qu'elle fait, etc. Et les caractéristiques de son corps, comme elle a des bras qui sont hyper laxes, elle est très souple, et elle aime aller dans des endroits qui sont monstrueux, grotesques, où ça sort, où ça rentre, où elle se tord, tout ça. Mmh. Donc moi, je connaissais ça d'elle, et c'est ça que j'ai essayé de j'ai essayé d'écrire un texte qui puisse lui laisser toute la place pour qu'elle puisse investir ça en fait dans la pièce, et ça donne quelque chose de, et en fait voilà, c'est ça qui fait que les gens voient l'enfance, etc. Mais c'est vrai que c'est par un détour, c'est par celui de Valeska Gert, mais qui a une pratique qui est assez
elle faisait quoi, elle, comme
alors elle faisait
comme travail.
Alors elle faisait différentes. En fait, elle performait dans des cabarets où Elle avait fait aussi des sortes de danses qu'elle filmait, qui ont été filmées. Alors, elle pouvait faire, par exemple, le bébé. Donc ça, c'était une chorégraphie qui était uniquement vocale.
Donc, elle imitait
oui.
le bébé.
Oui, donc elle fait un bébé. Donc, mais ce n'est pas vraiment elle imite, c'est qu'elle prend tous les cris, les espèces de gazouillis du bébé. Elle en fait une chorégraphie quoi, sonore et du visage. Par exemple aussi, elle a fait une autre... Elle dansait les personnages de son époque. C'était les années 20, donc il y avait la prostituée, c'était à Berlin. La maquerelle. Elle dansait aussi le cirque ou les sports. C'était le moment où il y avait l'expansion des sports. Et moi, ça m'intéressait énormément, cette capacité en fait, qu'elle avait d'intégrer toute la société de son époque dans la danse et dans des danses très courtes. Et puis aussi, elle mettait aussi son art dans des films muets. Elle était chez Pabst, par exemple, où elle avait des personnages un peu drôles. Elle pouvait incarner une sorte de maîtresse d'école sadique qui s'occupe d'un pensionnat pour jeunes filles en rééducation.
De ce redressement. Assez spécifique.
Voilà, quelque chose d'assez sadique, quoi. Et donc, le plaisir pris dans quelque chose de sadique, en fait, c'était assez inspirant aussi pour l'enfance, parce que les enfants aiment aller jusqu'où, à la limite, quoi. Aller là où, aller chercher là où ça casse, où c'est, où il n'y a pas le droit. Où...
Et justement, le travail sur le grand sommeil, l'idée de départ qui était de travailler donc avec... Cette Jeanne, elle s'appelait vraiment Jeanne,
ouais,
du coup,
ouais,
qui,
ouais, ouais.
Jeanne qui avait 11 ans. C'était une volonté parce qu'il y avait Jeanne, ou c'était tu allais aller chercher Jeanne parce que tu voulais travailler sur l'enfance?
C'est vraiment, ça part de Jeanne, hein. Ça partait du fait que j'avais envie de rassembler ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, Jeanne et Elena, et puis je me disais que la rencontre allait produire quelque chose que j'allais aimer ou de fort, et ça n'a pas loupé. et on voit un peu, je pense qu'on la sent, la rencontre en tout cas dans la pièce entre les deux, et cette relation assez c'est ça que j'aimais bien, c'est parce que je trouve qu'il y a, c'est peu souvent traité en fait, soit dans les films, soit dans les pièces, soit dans des romans, une relation forte entre deux filles qui n'ont pas le même âge et où c'est pas mère-fille ou un truc de jalousie, mais là c'est vraiment une sorte de complicité, mais ça exclut pas les enfin le côté un peu vache où la question c'est qui va maîtriser l'autre, qui va oui, avoir le dessus, le pouvoir sur l'autre, mais c'est une question de, c'est pas de la rivalité, c'est vraiment une question de vouloir contrôler l'autre.
Un rapport qu'on retrouve effectivement même avec Elena seule sur scène, mais qui incarne Jeanne, qui dans ses remarques, ou en tout cas dans ce qu'elle peut dire d'Elena, on retrouve un peu cette rivalité. La réécriture, il y a eu une grosse réécriture quand même au moment où Jeanne a dû quitter le projet ou...
Tout a été réécrit, en fait, tout était par terre, et c'est vraiment... Et là, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à ce moment-là, où... c'est un moment où je me suis sentie à la fois super triste, désemparée et assez humiliée, c'est-à-dire... c'était pas des sentiments vraiment agréables du tout, où je voyais tout mon travail mis par terre, nié à la fois par la commission des enfants du spectacle, les parents. Et en fait, là, j'ai vraiment appris qu'il fallait pas du tout essayer de sauver les meubles, quoi. Ça servait à rien de vouloir garder une scène qu'on avait construite à deux, de bricoler, ça servait complètement à rien. Il fallait accepter que tout était détruit.
Et qu'il fallait...
que tout était par terre, mais que tout était là quand même, et qu'il fallait en fait tout reconstruire, quoi. Mais c'est comme si on avait c'est comme si j'avais fait si j'avais eu une pâte à modeler, que je l'avais modelée, que j'avais fait un truc super, et que là quelqu'un avait écrasé méchamment la pâte à modeler et que tout était à nouveau par terre, mais j'avais la glaise, mais j'allais pas remodeler la figure que j'avais faite avant.
Et on parlera de tout ce que tu modèles encore après une petite pause musicale.
Heat is love by the fire.
Elle nous parle de la force et du courage des migrants, cette magnifique chanson de Christina Issa, Ocean. Alors que dans notre réalité moins mélodique, Carola Rackety, je ne sais pas comment on dit, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3 a été arrêtée samedi pour avoir accosté de force dans la petite île de Lampedusa. Tu es toujours à l'heure de l'apéro sur Radio Campus Paris.
Garçon, deux bâtisses doublées, trois frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Hey, Letty. Je viens du ghetto et je viens de cité, donc si je dois te niquer, je le prie avec mes ros. Je connais des fils d'eux et je traîne avec eux. Je les capte sans faire de cacher ça malgré eux. Je crains autant ma vie que ma mort. J'ai perdu des gens et j'en perdrai encore. Je parle beaucoup et quand je l'ouvre, c'est pour dire ce que je pense d'eux, à travers et à tort. Je suis pour me rappeler de mes rêves. Stress et nerfs font pousser cheveux blancs. Réfractaire des bagarres, j'en ai connu. De coups assez ferme, j'ai repeint ses cernes. À son haleine, je sais qu'il n'est pas moche. Sans Jack que Daniel pour ne voir que ses formes. L'amour de la chair n'a pas de mauvaise odeur. Je le prends deux jours pour ne voir que ses formes. Je déteste la violence, j'ai peur du sang qui coule. J'aime pas entendre mes amis dire pardon. Je peux pardonner sans baiser leur gars et attraper la ch'tue. Je suis très méchante quand tu me les casses. Putain, je pourrais t'égorger, te voir te vider de ton sang, finir mes jours en prison et ensuite regretter mes actes. Je parle aux gens parce qu'ils ont peut-être une réponse. Dieu s'attend, enfer et paradis. Les mecs que tu check, c'est les darons qui prient, attendent des miracles, mais voient leur fils qui tombe. Oui, je t'ai violé, cela porte ta faute. M'a dit ce fils de pute pour qui sentiment j'avais. M'a dit ce fils de pute pour qui j'en ai tant pavé. M'a dit ce fils de pute qu'on a finalement. Ils voulaient la rose, mais sans les épines. J'ai gagné du terrain comme en Israël. À Gaza, ils bombardent guettent les collines. Donc jaloux, écrivain et tuto hostile. Hier, ils tuèrent, aujourd'hui, ça avance au Dastream. Leur mère, je n'y crée dès que possible. Envers vrai radio, vrai négro, j'aurai beaucoup d'estime. Un jour libre sera la Palestine. Letty. Noir is the new black. Je mets le L avant le E et le point sur le I. Letty. Noir is the new black. Je mets le L avant le E et le point sur le I. Letty.
Autre univers, autre ambiance, comme on dit. C'était donc la bande-annonce, celle qui a été diffusée sur les réseaux de Dussal, ton troisième spectacle, c'est ça. Donc nous sommes toujours avec toi, Marion Siffert. Tu peux nous parler un peu de ce spectacle qui change radicalement avec ce qu'on a entendu avant, en tout cas sur les sonorités.
Oui, alors j'avais envie de... En fait... j'avais envie de travailler avec, en gros, l'imaginaire de mon époque. Et cet imaginaire, je pense qu'il est beaucoup façonné par la musique que les jeunes écoutent, qui est le rap, et qui est un mode d'expression, en fait, qui me parle beaucoup. J'adorerais en faire, je pense, ou j'adorerais être de cette génération qui en fait. Et... puisque c'est vraiment c'est un rapport au texte qui est très poétique. C'est de la poésie, mais partagée par des millions de personnes qui l'écoutent. Et surtout incarnée sur scène, où il y a des gens qui viennent sur scène. Les rappeurs sont des performeurs qui viennent défendre leur texte sur scène devant plein de gens. Et j'avais envie que ce soit comme un portrait croisé, parce que je pense que mes pièces sont à chaque fois des portraits. Et que ce soit un portrait croisé d'une jeune rappeuse et d'une jeune danseuse. Et du coup, j'ai construit le spectacle vraiment autour d'elle. J'ai essayé de disposer le spectacle d'une manière à ce qu'on sente à la fois la relation qui se tisse entre elles et aussi de façon à ce qu'il y ait suffisamment de place pour l'univers de chacune, la personnalité de chacune.
Oui, parce que tu parles de la relation entre les deux, et donc c'est Janice Bielleux qui est la danseuse,
oui.
Et Laetitia Kerfa, aka Original Letty, qui est donc la rappeuse, et qui fait plus que rapper d'ailleurs dans le spectacle, puisqu'elle a des morceaux où elle... Alors je sais pas si je dois dire elle joue, ou si elle fait du stand-up, ou en tout cas elle se raconte.
Mm-hmm.
Les deux, et on le voit... quand on est spectateur ou spectatrice de ce spectacle, on voit leur relation et elle est très touchante parce que justement, comme t'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas cette relation de rivalité ou de compétition. On est vraiment dans quelque chose de proche de la sororité, quelque part, enfin, voilà, de bienveillance et d'empathie. Elles se connaissaient avant de travailler avec toi ?
Non, elles ne se connaissaient pas du tout. Elles se sont rencontrées du coup dans les répétitions, voilà, pendant le travail.
Et toi, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé, la possibilité que ça ne se passe pas entre les deux ? Ou quand tu les as vues, tu t'es dit, non, ça passera forcément, et tu les as choisies en fonction de ça ?
Non, en fait, je n'ai pas du tout choisi en fonction de ça. J'ai choisi vraiment des personnes qui, individuellement, me touchaient énormément. Voilà, à la fois par ce qu'elles pouvaient donner sur scène et aussi par ce qu'elles étaient. Et je me disais que même si ça passait pas, ou quelle que soit la relation, j'allais réussir à la raconter sur scène. Que ce soit... mais je pensais pas que ça allait être conflictuel, étant donné la personnalité des deux. Enfin, voilà, je voyais bien que c'était quelque chose d'assez complémentaire, mais après, c'est plus faire attention à ce que l'une ne bouffe pas l'autre, mais je veux dire sur scène, quoi. C'est-à-dire à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour l'une et l'autre.
Pour les deux, pour s'exprimer. Et du coup, par contre, le spectacle a été écrit avec elle. Ou en tout cas, après les avoir choisis.
Oui, alors dès le début, je leur ai dit que je voulais faire un spectacle à partir d'elles. Donc c'était à la fois à partir de leur art et aussi à partir des personnes qu'elles étaient. Et que, bien entendu... voilà, je respectais aussi les limites qu'elle-même me posait. C'est-à-dire que pour Janice, je voyais qu'elle avait profondément envie d'affirmer que le moyen d'expression qui était le sien, c'était la danse, et qu'elle n'avait pas besoin de parler. Du coup, ça, je trouvais que c'était un acte, d'artiste super fort d'affirmer ça. Et pour Laetitia, j'ai senti que c'était quelqu'un qui avait envie que, justement, d'être mise en scène et qui avait envie de... Je pense qu'elle recherchait ce qu'on a fait dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle avait envie de donner beaucoup.
Elle se raconte beaucoup dans la pièce. En tout cas, elle nous fait croire qu'elle se raconte beaucoup. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est... Quel degré est la réalité, enfin quel degré il y a entre la réalité et la fiction. Est-ce qu'on est sur une autofiction de sa vie, mais en tout cas elle dit beaucoup de choses d'elle et elle se met en jeu aussi physiquement beaucoup.
Oui, alors après, enfin je sais pas si autofiction etc c'est une manière, enfin.
Vous savez, c'est littéraire.
Je sais, oui, en fait, là, je le vois plus comme quelque chose de... Comme ce que font les rappeurs, en fait. Comme ce qu'elle fait dans les raps, en fait. C'est un peu un prolongement de ce qu'elle fait dans son rap. Et là, ce qu'elle fait sur scène. C'est-à-dire qu'à la fois la musique, comme la scène, c'est un espace où on peut aller vraiment plus loin. Je pense que c'est pas une question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais c'est vraiment une question d'intensité. Et de réussir à trouver... à pousser jusqu'au bout, à sentir à quel endroit on peut exagérer, à quel endroit on peut aller très loin dans des fantasmes, dans des rêves, dans quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, en fait.
Il y a justement un fantasme qui, moi, m'a marqué et qui, je pense, a marqué beaucoup de gens qui étaient là, en tout cas, quand je suis allé voir, c'était aux Amandiers, qui est le passage où elle décrit le moment où elle veut défoncer l'assistante... Alors, je ne sais plus si c'est une assistante sociale ou en tout cas une personne qui gère le foyer où elle est hébergée, où elle raconte être hébergée, et qu'à un moment... De par une humiliation qui vient de la part de cette personne, Laetitia raconte comment elle imagine lui péter la gueule. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Oui, mais lui casser la gueule d'une manière spectaculaire, grandiose, absolument...
Tarantinesque, j'oserais, si... pour une petite référence cinématographique. Et je sais que dans la salle, ce moment-là, et même pour moi, c'est un moment qui est très... que j'ai trouvé très particulier parce que il y a cette espèce de dissonance cognitive du gauchiste un peu bobo et bien pensant qui dit oui je comprends l'humiliation mais là t'es dans une violence telle que je peux pas te cautionner et je n'arrive pas à te cautionner. Est-ce que Je suppose que c'est là-dessus que vous vouliez jouer, je sais, ou, c'était,
oui.
ou ça a été pensé quand même comme ça ou...
Bah, en fait, c'est juste que, c'est... en gros, cette scène, elle est arrivée quand on a commencé à travailler sur Lady Macbeth. Donc vraiment sur la question de la violence, du passage à l'acte, du connais-toi toi-même, en fait. Mais dans connais-toi toi-même, dans tout ce que toi-même comporte, et c'est-à-dire à la fois... la lumière, mais aussi les ténèbres, les choses les moins avouables de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de pas facile à faire, en fait, de regarder en face sa propre violence, les choses même qu'on ne peut pas cautionner, justement, de soi-même. On sait que c'est pas moral, c'est pas bien de faire ça, mais c'est quelque chose qui est quand même là, qui est en nous, la violence, elle est là. Et du coup, j'avais envie que qu'il y ait cette place, enfin que le spectacle puisse faire place à ça, et justement de produire cette friction que tu décris et que je trouve qui moi m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que du coup, on est forcé de sortir de la morale, de se dire ah il faut la cautionner. Non, on rentre dans un personnage et pour moi, elle nous prépare du coup à Lady Macbeth, à quelque chose qui est oui à la quelque chose qui est de l'ordre de vraiment enfin proche de enfin qui nous parle de la condition humaine, de ce que c'est que de vivre.
Mais je me demandais justement s'il y avait une différence de réception en fonction des publics. Je sais pas si ça a été joué devant des publics très différents, parce que le public, pour moi, le public nanterre amandier est quand même typiquement plutôt gauche, bobo, bien pensant, on va dire, pour simplifier. Je ne sais pas si... c'est à la commune d'Aubervilliers qu'il a été monté la première fois. Je ne connais pas la salle, donc je ne sais pas du tout quel type de public peut y avoir. Ou si ça a été joué ailleurs. Est-ce que vous avez noté des différences
Ben, c'est en fonction des soirs. Enfin, c'est vrai qu'à Aubervilliers, ce qui était super agréable, c'est qu'on avait plein de jeunes qui sont venus voir la pièce et qui... Du coup, c'est vrai qu'ils réagissent de manière très différente que des spectateurs habituels et chevronnés de théâtre où il n'y a pas du tout les mêmes endroits d'empathie, en fait. Et là, ce moment-là, je pense que toutes les personnes qui ont eu affaire ou ont affaire à tout le système social français, avec tout ce que ça comporte d'assistanat, d'humiliation, de qu'est-ce qu'on doit raconter de sa vie pour avoir telle aide ou je sais pas quoi... tous ces gens-là se sont complètement identifiés à ce moment-là. Pour eux, je pense que la violence était... En tout cas, l'imaginaire de la violence était drôle, ou proportionné à
l'humiliation.
Voilà. Et donc, les réceptions étaient très différentes en fonction des scènes, quoi. Donc ça, c'était assez intéressant. Pour eux, par exemple, pour les jeunes, la scène la plus choquante, c'est plus la scène qui parle de sexualité, ou qui parle des mères. Quand elle dit les mères sont des salopes, là on sent que dans la salle ça passe pas du tout. D'ailleurs, il y en a qui répondent, qui disent pas la mienne, ou il y en a qui disent tu dis pas ça, et qui essaient d'intimider ou de montrer leur désaccord. Que là, pour le coup, eux ne cautionnent pas ça. Et du coup, c'est tous ces jeux de renversement qui nous amusent beaucoup avec Letty, quoi, avec lequel. Enfin, c'est, et avec Janice aussi, parce qu'elle se marre bien. C'est avec ça qu'on joue. Et qu'on... Pour que chacun ait son entrée dans le spectacle et pour que personne ne soit vraiment épargné non plus, pour trouver un endroit de trouble, pour mettre en... Enfin voilà, pour déclencher des interrogations, mais qui sont intimes, qui sont sur des vécus, sur des expériences intimes.
On continue de parler du sale après une autre pause musicale. You can fuck whatever them girl you want. You never find a space like this. They never taste like me. You can flirt with whatever them girl you want. You never feed a place like this. Never squeeze like me. Whatever them girl, whatever them girl. Whatever them girl, whatever them girl. Whatever them girl, whatever them girl. C'était le délicieux Cinnamon Roll, nouveau titre d'Erotic Market, toujours sur le 93.9 à l'heure de l'apéro.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
On va prendre petit sûr.
Et je suis toujours en compagnie de Marion CFR et on va poursuivre notre entretien juste après un reportage de Sarah Fortin pour la rédaction de Radio Campus Paris sur les nuits parisiennes avec Frédéric Ocard, adjoint de la mairie de Paris à la vie nocturne.
Bonsoir Frédéric Ocard.
Bonsoir.
Vous êtes maire adjoint à la mairie de Paris en charge de la nuit, on peut le dire comme ça?
Oui. La vie nocturne.
Je vous reçois pour vivre de nouvelles nuits parisiennes.
Exactement.
Elles sont issues d'un appel à projet dont les résultats ont été divulgués le 15 mai dernier par le Conseil de la Nuit. Et vous animez d'ailleurs ce Conseil de la Nuit. Je cite des projets lauréats, After School aux Amandiers, Ciné Palicao, Fête des Lumières, etc., etc. Il y en a une vingtaine. Et j'aimerais que vous nous emmeniez d'abord dans ces nouvelles nuits.
Il est 21h30, 22h, la nuit commence à tomber, donc on est un peu plus tard dans la période estivale. On va dire on est dans le 20e, le gymnase qui se trouve rue des Haies. Il y a des tapis, des poufs, des coussins. C'est un projet de slip concert.
Vous allez vous asseoir
Peut-être sur un pouf par exemple.
Vous asseyez sur un pouf, il y a d'autres gens autour?
Évidemment, tous les habitants d'un quartier comme le quartier de la place de la Réunion. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants... Et puis on va commencer par entendre des musiques avec des sonorités différentes. Aussi des voix qui vont raconter peut-être des récits sur la vie nocturne. On va s'assoupir, on écoute, on entend, on est bien.
Vous êtes sur le pouf, on est en pleine immersion et ça dure jusqu'à quelle heure?
Une heure et quart. Petit à petit, on va sortir du slip concert.
Vous avez eu combien de projets?
On a eu une cinquantaine de projets. Donc il y a une 42 sur les 50. Qu'on a retenu, on a eu un jury.
Il y a eu beaucoup de discussions dans le jury sur
les
critères.
Alors ce qui était intéressant, c'est que dans le jury, on avait une quinzaine de personnes. Ils se connaissent, mais ils ont en général plutôt l'habitude d'être en désaccord. On a voté, on a quasiment eu des projets à l'unanimité. Il n'y a pas eu de clash. Mais dans l'appel à projet, il y avait quand même l'idée d'une nuit bienveillante, il y avait quand même l'idée de respecter le voisinage, il y avait quand même toutes ces idées-là et tout le monde avait accepté ça. Donc comme quoi, quand on veut arriver à créer du commun sur la nuit... Même à des endroits où on pense que c'est conflictuel, eh ben ça marche. Parce qu'on a beaucoup fait circuler l'appel dans les milieux nocturnes, les centres d'animation, les centres jeunesse de la ville. Du coup, on a eu pas mal de propositions qui émanaient de ces quartiers dans lesquels, pour eux, la vie nocturne, bon, c'était plus lié à plutôt l'heure à laquelle on arrête. Et moi, je leur ai dit, non, c'est pas la question de l'heure à laquelle on arrête. La question de la vie nocturne vous concerne, vous aussi, directement. Donc, on a des projets, vous avez nommé les premiers projets sur After School aux Amandiers ou le Ciné Palikao, qui sont des projets de cinéma en plein air, qui sont portés par des associations qui sont plus habituées à travailler avec la ville autour de ce qu'on appelle la politique de la ville, qu'on vienne les voir en leur disant, mais vous savez, sur la politique de la vie nocturne, on a aussi besoin de vous. Donc c'est aussi pour ça que ça a fonctionné.
Ça se déroule là, de juillet l'été, en août.
Mais
quoi,
il y a des choses qui vont se dérouler aussi un petit peu plus tard. Il y a un projet dont je n'ai pas parlé de théâtre, qui est une installation nocturne basée sur le récit des rêves des habitants dans le 19e ou dans le 20e. Mais là, il aura lieu, à mon avis, plutôt à l'hiver. C'est un metteur en scène qui a l'habitude de travailler sur les quartiers et qui a inventé à cette occasion-là un projet. Le metteur en scène va rencontrer les habitants, collecter leurs rêves. Et le rêve, qu'est-ce qui est plus la nuit que le rêve ?
Je vous remercie, Frédéric Oka.
Merci.
Les animations des Nouvelles Nuits Parisiennes ont déjà commencé.
Ont déjà commencé et continuent à partir de cette semaine et durant juillet, août.
Et même jusqu'à...
Et même après, voilà.
Merci Sarah Fortin. Je suis donc toujours avec Marion Seyfert et on parlait du SAL, cette pièce qui amène dans le monde du théâtre, du rap et de la danse hip-hop. Comment les deux, alors je dis comédienne, mais donc la danseuse et la rappeuse ont appréhendé le monde du théâtre et ses codes, même s'ils sont un peu explosés dans le cadre de la pièce, mais...
Alors c'est vrai qu'elles avaient des idées sur le théâtre, c'est-à-dire que c'est un milieu qui... Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas neutre pour elles, ou c'est un endroit où elles étaient allées avec l'école... Donc, y a quand même l'idée que c'était pas un monde qu'elle connaissait à la base. Et ensuite, l'autre chose aussi, c'est que... elles ont dû aussi adapter leur art au théâtre. C'est-à-dire que le dispositif, il est vraiment hyper différent que ceux auxquels elles sont habituées. Où dans une battle, les gens sont tout autour, encouragent, font des « hey », applaudissent.
Oui, alors clairement, là, c'est...
Frappent des mains.
Les gens sont assis.
Voilà, dansent. En même temps, sans jaille. Enfin, il y a vraiment l'idée de ça. Et dans le rap, c'est pareil. C'est vraiment l'idée de... Le rappeur va chauffer le public. Le public va répondre, va faire du bruit pour que le rappeur puisse être... lui donner de la force, comme ils disent. Et que ça y aille, en fait. Et les gens dansent, ils chantent, etc. Donc là, c'est pas du tout la même chose. C'est un rapport hyper différent. Donc un rapport qui est beaucoup plus... un rapport d'écoute, l'écoute est différente, et du coup c'était vraiment pour elle aussi, enfin pour Janice par exemple, la danseuse, c'est une manière totalement différente d'envisager l'espace. C'est-à-dire que là elle devait prendre, et pour elle c'était hyper intéressant, d'imaginer sa danse là du coup dans un espace face à des gens. Et moi ce qui m'intéressait c'est que comme elle a une pratique qui est comme ça, celle des battles, celle des workshops, où c'est du freestyle, on s'empare de tout ce qu'il y a pour nourrir sa danse, de l'énergie des gens, etc. C'est quelque chose qu'elle a aussi transféré là au théâtre, où elle prend vraiment le temps au départ de sentir les gens en face, de les regarder, de créer en fait, elle crée le climat d'écoute dans lequel on va être pendant toute la pièce. Et pour le rap, c'était aussi pour Laetitia, je pense, c'était expérimenter deux types de paroles et sentir un peu à chaque fois quel filet de protection saute dans le théâtre. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus... le fait que la parole rappée soit musicale, ça crée une sorte de protection. C'est clairement de la poésie, c'est clairement de la musique, c'est... Et le théâtre, il y a quelque chose qui colle beaucoup plus, qui fait plus vrai, plus direct. Et du coup, je pense que c'était vraiment apprivoiser, en fait, cette
parole plus crue, plus...
Oui, et pouvoir rentrer dans des personnages. Pouvoir rentrer dans des personnages, et ça, c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup, en fait, de pouvoir aller plus loin dans l'exploration des différentes personnes qui la composent.
Effectivement, elle fait toute une galerie de caractères, ou en tout cas de personnages différents qu'elle va incarner, qui sont le reflet de quoi ? De ta vision à toi, de sa vision à elle ? C'est des personnages qui ont été composés comment ?
C'est plus que elle, j'ai compris très vite que ce qui était intéressant, c'est qu'elle était multiple, qu'elle était changeante, c'est quelque chose qu'elle affirmait, mais du coup, il fallait plus l'amener en fait à préciser certaines choses, quoi. À pas être juste dans je pourrais être n'importe qui, mais à préciser en fait les quelques. Oui, les quelques personnages qui sont là et aller en chercher d'autres. Donc, ça, c'était vraiment dans des improvisations. En fait, c'est né de tout ce qui. Enfin, du long processus d'improvisation qu'on a fait pendant 6 mois, en fait. Où là, je suis allée gratter, j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux amener une couleur joyeuse, comment est-ce que... Et du coup, d'aller chercher aussi des personnages de théâtre pour...
Elle reprend donc Lady Macbeth à un moment dans la pièce, notamment. Et d'ailleurs, mais alors, je reviens un peu sur tous ces personnages que Letty joue, et puis même le dispositif en lui-même a quand même un discours assez créé, en tout cas assemble un discours à la fois très, très divers, avec plein de... ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps très concret politiquement. Il y a une forme de militantisme à la fois dans le dispositif et puis dans ce qu'elle dit, alors qu'il n'y a pas un militantisme... actif, à mon sens, dans le sens où elle ne milite pas pour une cause, mais dans ce qu'elle raconte de toutes ces réalités qu'elle nous fait voir, il y a un témoignage qui est assez cru et qui, pour moi, est politique. Je ne sais pas si c'est pensé comme un acte politique, cette pièce, ou pas, de ton point de vue. Je vois du politique partout. Hein, donc ça,
après,
ça
je ne sais pas, je pense que c'est plus une manière, bien sûr, qu'il y a du politique. C'est aussi dans la manière dont on fait la pièce. C'est l'idée de se dire, enfin moi déjà, à la base, c'était de me dire, bon, bah, j'ai envie de partager un outil de production, qui est celui du théâtre, de me dire avec qui j'ai envie de le partager, avec des jeunes artistes qui n'ont pas forcément accès à cet outil-là de production. Bon, il y a de l'argent ici, autant faire profiter d'autres personnes et voir ce que ça peut, enfin, quel chemin ça peut leur permettre d'ouvrir. Et puis après, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui m'amuse, c'est-à-dire de... Enfin, eux aussi... C'est vraiment la question de la représentation, c'est-à-dire que là, enfin voilà, c'était l'idée d'amener une parole dans tout ce qu'elle a, dans toute sa singularité, parce que comme tu le dis, c'est pas, on ne défend pas de message ou de cause ou de je sais pas quoi, mais c'était vraiment amener une parole dans toute sa singularité sur cette scène-là de théâtre, une parole qu'on n'entend pas et qui peut du coup permettre à la jeunesse d'Aubervilliers, en tout cas, de s'y reconnaître, je pense, parce qu'il y a des expériences qui sont...
Oui, diverses, forcément.
Et puis de...
C'est, en tout cas, c'est effectivement donner la parole à des gens qui ne l'ont pas en plus spécialement de base, et surtout pas auprès du public que tu touches.
Surtout pas au théâtre. Surtout pas au théâtre. Et en fait, aussi de... Enfin, de parler à partir d'un art et à partir de références qui ne sont pas forcément celles du théâtre. Et du coup, moi, ça m'amuse de voir parfois des spectateurs de théâtre où je sens qu'ils sont perdus parce que ce n'est plus leur code, ce n'est plus leur référence. Quand il y a Damso qui arrive, ils ne maîtrisent pas tout.
Ouais, j'avais évoqué Damso, justement.
Ils ne comprennent pas le jeu, forcément. Ils entendent que ça réagit à côté s'il y a des jeunes et ils sont perdus. Et ça, j'adore.
Pour resituer, à un moment, il y a une réécriture de Damso dans la pièce qui est en fait, c'est la chanson J'ai perdu. Noir is the New Black, voilà, qui est réécrite du point de vue de Letty, quoi. Oui. Et la chanson originale étant légèrement sexiste, ou en tout cas violente, en tout cas.
Depuis le point de vue de Damso, sa sexualité, de sa manière de vivre les choses.
Je sais pas comment, j'ai pas de mot élégant qui me vient, mais voilà. Et donc il y a la réécriture effectivement du point de vue de Letty qui peut être compris effectivement par tout un tas de gens qui principalement ne vont pas au théâtre.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est... j'adorais voir ce moment-là. C'est-à-dire quand il y a les premières notes de Damso qui se lancent, toutes les personnes qui connaissent Damso. Et les jeunes, là, ils ont leur cerveau qui fait un tour dans leur tête parce qu'ils se disent, quoi, cette fille qui vient de dire « les mères sont des salopes », qui vient d'imiter des actes sexuels sur scène, qui ne se comportent pas comme une fille normale, quoi. Là, elle va nous faire Damso. Donc, en fait, ils ne comprennent plus. Ça ne va pas ensemble. C'est où ça va trop bien ensemble, justement. Parce que comme Damso, elle parle, en fait, elle utilise le champ lexical du sexe pour parler, enfin pour exprimer une violence. C'est ce que fait Damso. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il exprime une tristesse et une violence à travers la sexualité.
Dussel, donc, parlait quand même beaucoup de l'époque et des jeunes en tout cas, et d'un certain vécu en tout cas. Et tu as aussi collaboré à un film qui s'appelle L'Époque, justement, dans lequel on va retrouver un peu toutes ces paroles de gens qui ne l'ont pas toujours. On va écouter la bande-annonce tout de suite.
J'étais pas du tout contre l'État ou anarchiste il y a un an. Et c'est à partir du rejet de la police que j'ai pu avoir une réflexion politique un peu plus large.
C'est quoi l'époque ? L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc ! C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus.
Les adultes, ils nous projettent dans le monde dans lequel eux, ils vivent, dans un monde qui sera pas du tout le mien dans 40 ans ou dans 30 ans, et je me sens perdu.
On continue les études, on est motivé parce qu'on sait très bien que sans les études, on n'est rien.
Non mais attends, tu crois vraiment que tu vas l'avoir dans 40 ans ta retraite ?
J'avais rêvé en gros que la France était tombée dans une hyper grosse dictature. Je m'étais impliquée dans la résistance.
On attend quelque chose, mais on attend quoi ?
Et tout ça, c'est le temps qui va te le dire en fait.
La haine. Les combats, ça mène à rien du tout.
Va regarder, va apprendre, tu t'apprends d'où je viens. Après d'avoir un facho, tu seras pas atteinte parce que tu sais quitter.
Quand tu dis les Français ils sont pas contrôlés, ça veut rien dire. Moi je suis français, je me fais contrôler.
On est obligé de toucher à vos intérêts pour vous nous écouter. C'est triste d'en arriver là. Une démocratie, des mots, c'est le peuple. Cratie, c'est le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas une seule personne.
Tu veux être fier de quoi ? Liberté pour qui ? Égalité pour qui ? La terre gronde. Bah ouais. Mais si tu savais comment j'ai le feu !
Les rêves, ils sont grands et tout est possible en fait.
Garçon ! Deux bassines doublées, trois frites.
Pour un pic en bière, c'est moitié-moitié ?
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Et nous sommes toujours donc avec Marion Seyfert pour la fin de cet apéro. On vient d'entendre la bande-annonce du film donc, qui s'appelle L'Époque, qui est sorti le 17 avril, je crois, au cinéma, oui, de Mathieu Barrère, film sur lequel tu as collaboré. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce qu'est ce film, qui est plus un documentaire ?
Oui, alors c'est un long-métrage documentaire pensé pour le cinéma, et c'est une plongée dans les nuits à Paris, où Mathieu Barrère et l'ingénieur du son Thibaut Dufay sont partis à la recherche ou à la rencontre plutôt de différents des jeunes en fait qui sont dans la rue. Et c'était l'idée vraiment de renouer avec une forme de documentaire des années 70 ou avec un dispositif très léger et qui se construit en se faisant et du coup d'enquêter sur l'époque à travers des paroles, ce qui se passe dans Paris la nuit, et de sonder une sorte d'inconscient comme ça, une sorte de comme une question en fait qui hante tout le monde. Qu'est-ce que l'époque, c'est quoi l'époque, et comme une sorte de tentative sans relâche d'essayer de préciser cette question, de la comprendre, de la reposer, et surtout aussi d'exprimer en fait aussi de sortir d'un sentiment d'impuissance, je pense, dans lequel on se sent assez plongé La sensation qu'on reste chez soi à regarder son fil d'actualité Facebook et qu'on voit toutes les choses horribles qui défilent et l'impression que ça va de pire en pire et de se dire qu'on ne peut rien faire. Et je pense que pour lui et l'ingé son, c'était vraiment l'envie d'être au cœur de ce qui se passait, de plus être le spectateur, mais justement par le regard, par le cinéma, de raconter et de vivre aussi des choses à la fois collectives et à la fois individuelles, de forcer des rencontres, de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés.
Sachant qu'en plus, ça a été une période, enfin la période de tournage qui s'est étalée sur à peu près un peu plus de deux ans,
c'est ça.
En gros, a été traversée par des événements qui ont amené les gens dehors. Oui. Puisque ça commence, alors je sais plus si c'est
en
juste
2015
avant le Bataclan,
c'est
le tournage ou après.
En juin 2015.
Ouais, juin 2015 donc.
Et ça va jusque l'après présidentielle 2017, donc jusqu'aux élections présidentielles 2017. Donc c'est voilà une période où il y a cette peur, ensuite cette espèce de chape de plomb. Nuit debout, les premières manifestations sur la loi travail, les manifestations sauvages liées aux élections présidentielles, etc. Mais après, le film n'essaie pas de raconter l'histoire de manière chronologique, mais va plutôt chercher, justement aussi, dans les singularités, en fait, il va chercher des paroles qui sont irréfutables, c'est-à-dire des gens qui, pour la première fois, qui formulent des choses pour la première fois où on sent qu'ils se formulent eux-mêmes devant la caméra et aussi qui restent dans qui n'ont pas de message à délivrer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vision sur d'avis ou de qu'ils n'ont pas un vécu qui est précis mais ou un ressenti en tout cas qui est précis mais sont des personnes qui sont
ils n'ont pas d'agenda politique, on dirait. Ils ont, voilà, c'est juste on leur tend un micro et pour la première fois, entre guillemets, ils s'expriment et ils ont le moyen de s'exprimer et ça aide à, aussi peut-être à formuler des pensées. Enfin,
oui, c'est ça les paroles qu'on a retenues, en fait. À la fois des moments de vie qui est extraordinaire et aussi d'autres moments qui sont comme ça, uniques, où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, à ce moment-là. Et c'est ça que le cinéma peut capter. C'est le moment un peu exceptionnel qui se passe, qu'on appellerait rencontre de cinéma ou miracle.
Et toi, voilà. T'es arrivée après le tournage, c'est ça, dans le processus donc
j'étais tout le temps là, en fait. J'étais pas pendant... Enfin, je les accompagnais pas en tournage, mais je regardais les rushs en sortant. J'étais dans le... Enfin, on a beaucoup parlé à chaque fois entre les sessions de tournage. C'était vraiment... j'ai accompagné. Puis après, pendant le montage... Beaucoup la réflexion de comment on agence tout ce bordel.
Puisque l'émission touche à sa fin, l'époque est encore de temps en temps diffusée dans certaines salles,
oui.
Je crois. Il va y avoir une sortie prévue, DVD, streaming, pour que les gens puissent le voir un maximum.
Bah, on espère, mais pour l'instant, on ne sait pas encore exactement sur quel... quand il a sorti DVD, ni s'il a sorti VOD, sur quelle plateforme ce sera proposé, ça on ne sait pas encore. Mais par contre, c'est toujours au cinéma, je crois au cinéma L'Archipel à Paris, et parfois,
parfois
dans d'autres petites salles en province aussi.
Parfois ailleurs. Merci beaucoup Marion Sieffert. Il y a des actus pour toi un petit peu quand même, un spectacle en préparation ou du salle tourne
oui.
Encore.
Alors il y a des tournées. Alors déjà il y a l'époque qui va être projetée aux rencontres photographiques d'Arles. Il y a Le Grand Sommeil qui va être joué au Festival de la Cité à Lausanne. Puis la saison prochaine à nouveau. Du salle aussi et qui va être repris à Paris au Théâtre de la Commune en décembre 2019.
Eh bien, merci beaucoup, Marion Sieffert, d'avoir été avec moi, puisque je dis nous, mais aussi, il y a du monde derrière, il y a quand même du monde derrière la vitre. Déjà, se termine l'apéro, celui de Radio Campus Paris, bien sûr. Je sais que le tien va se prolonger jusqu'à tard dans la nuit, car les verres ont toujours un goût un peu plus doux quand le soleil s'est couché. Ne me reste plus donc qu'à remercier Marion Sieffert d'avoir partagé ces quelques verres avec nous ce soir. Merci également à Sarah Fortin de la rédaction de Radio Campus Paris pour son reportage, à Maxime pour son sketch qu'on n'a pas diffusé, mais il est vachement bien, on le trouvera un autre moment, à la merveilleuse Alex pour la coordination, et à la dextérité tonitruante de Margot qui était à la réalisation de cet apéro. Je savonne. Quant à moi, je te salue bien bas, auditrice, et t'invite à rester sur les ondes envoûtantes du 93.9. Ciao Bella, ciao.